cet épisode de notre podcast sur le dating moderne.
On est
des Détestables.
Cet épisode est un peu spécial et un petit peu plus original parce qu'on a choisi d'aborder le dating en prison. On a des chroniqueuses pour ça, qui se sont bien renseignées sur le sujet. Donc il y a Lilou.
Allô.
Et Mina.
Salut.
Et pour réagir à ce qu'elles vont nous révéler du prison dating, on a Evelyne.
Bonjour.
Et moi-même, Kizzy.
Donc, je laisse la parole à l'une d'entre vous, Lilou.
Oui.
Juste peut-être un petit, une petite mise en garde avant de commencer l'épisode, pour dire que, effectivement, on n'est pas experte en la matière. Cet épisode, c'est juste un épisode qui reflète notre intérêt pour un sujet original, et c'est pour le divertissement.
Mais c'est ça. De base, je pense que l'idée, ça partait de notre fascination un petit peu autour de tout ce qui est true crime et qui touche aussi donc les gens qui vont finir par dater des gens qui sont en prison. Et puis ça partait d'une intention beaucoup plus légère, mais quand on commence un petit peu à dig là-dedans, c'est sûr que ça devient un petit peu plus un petit peu plus sérieux comme sujet. Donc on essaie de regarder un petit peu les deux facettes qui sont pourquoi les gens à l'intérieur de la prison ont besoin d'un contact avec l'extérieur pour éventuellement se réadapter au monde extérieur, et de l'autre côté, qui sont les gens qui cherchent activement à rentrer en relation amoureuse avec des gens qui sont à l'intérieur des prisons, c'est quoi leur motivation, et comment ça évolue ces relations-là.
Quand on a commencé à penser à ce sujet, on avait une image bien précise en tête, on pensait aux prison groupies, genre comme celle qui était attirée par Charles Manson à son procès. On sait que genre il avait un tas de groupies en premier rang au tribunal. Donc nous, on avait vraiment cette idée en tête, mais bien entendu, comme tu disais Mia, quand on commence à digue un peu dans le sujet, dans le monde des gens qui datent du monde en prison, il y a toutes sortes de réalités. Et bien sûr, il y a aussi des relations en prison entre les détenus. Donc il y a des histoires d'amour qui peuvent naître entre deux personnes qui sont incarcérées en même temps. Souvent des relations homosexuelles. Sauf dans certains cas, par exemple pour Carla Homolka qui a réussi à trouver l'amour à travers une barrière en métal à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc ça existe, mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi les relations entre les employés du milieu carcéral et les détenus. Ce sont principalement des femmes qui sont concernées par ce phénomène. Donc j'ai trouvé un article de la presse qui expliquait que c'était quelque chose de quand même assez courant dans nos prisons au Canada. En particulier avec les cliniciennes, donc c'est des gens qui sont plutôt dans les soins pour les prisonniers et qui sont souvent portés à genre avoir de l'empathie, s'intéresser aux prisonniers en tant que, bien entendu, en tant qu'être humain, qui ne les voient pas comme des monstres, et puis et qui finissent par tomber en amour avec les gens qu'elles soignent. Et donc il y avait même un chiffre qui montrait qu'il y avait 4% des employés de prison aux États-Unis qui avaient vécu une relation avec des détenus, qui est énorme, effectivement.
Est-ce que tu penses que c'est un petit peu la vision de caretaker? Genre, tu t'occupes de quelqu'un et donc
ouais,
tu vas...
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de...
Genre, j'imagine qu'il doit y avoir des situations où c'est comme des gardes de prison, et comme...
Il y a la dynamique... relation de hiérarchie.
Ouais, la dynamique n'est pas la même que, genre, si t'es l'infirmière qui prend soin de quelqu'un, ou infirmier, mais genre, I guess que la plupart des cas, c'est l'infirmière. Et tu entres un petit peu dans cette dynamique où, comme, tu prends de l'affection pour...
C'est sûr qu'il y a ce cas de figure, mais sans tricher. J'ai googlé quand même prison dating pour voir s'il y a des articles, s'il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Mais les deux premières pages sur Google, c'était toutes des sites de rencontres.
Ouais,
pour rencontrer des inmates. Donc j'imagine que le public doit être quand même large.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais sans spoiler,
on y arrive, parce qu'effectivement, donc les relations entre employés et détenus, ce n'est pas non plus notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on veut vraiment parler des personnes qui sont à l'extérieur, qui entretiennent une relation avec les personnes incarcérées. Donc c'est ça notre notre portée du sujet du prison dating.
C'est quand même le plus croustillant.
C'est le plus croustillant et en même temps c'est assez naturel que les personnes à l'intérieur de la prison recherchent une relation, tu sais, humaine, amoureuse potentiellement. Comme tu disais, Fizou, donc il y a des sites de rencontres parce que il y a des sites qui permettent aux prisonniers de correspondre avec des personnes à l'extérieur pour leur apporter cette connexion humaine. Et il y a des recherches qui montrent que pour les détenus, hommes ou femmes, quand ils entretiennent des liens, qu'ils soient familiaux ou amoureux, plus forts, ça a facilité leur vie en prison. Ils avaient moins tendance à se retrouver dans des situations où ils devaient avoir des rallonges de peine et tout. Et ça facilitait aussi leur réinsertion. Donc, définitivement, c'est hyper naturel de chercher à, bah, en fait, continuer à dater même si tu es en prison. Ouais.
Petite parenthèse.
Ouais.
Je sais pas si tu te rappelles, mais comme un des sites qu'on avait trouvé, ça précisait comme quoi.
Prison Pen Pals.
Oh oui. Merci. Prison Pen Pals, donc, précisait comme quoi ce site s'était fait comme pas pour des relations romantiques. Mm-hmm. Même si je pense que dans l'absolu, je pense qu'il y a une grosse proportion des gens qui entrent en contact avec des inmates, c'est pour justement des relations romantiques. Et je pense que aussi les inmates qui sont à l'intérieur, eux, ils essaient aussi de trouver des relations romantiques. Mais le but initial, c'est pas forcément ça. Je sais pas si c'est pour protéger les gens à l'intérieur ou l'extérieur.
Mais j'ai vu aussi un site qui disait, comme une sorte de disclaimer en fait, qu'ils sont pas responsables de ce qui se passe.
Ouais, c'est ça, c'est peut-être pour se protéger eux. Mmh. Qu'ils prétendent que c'est pas pour des intérêts romantiques.
Mais je pense aussi que quand on parle ou on pense à une personne incarcérée, tu sais, il y a tout un spectre de qu'est-ce que la personne a fait, est-ce que c'est une personne qui a fraudé, est-ce que c'est une personne qui a commis un meurtre, est-ce que c'est quelqu'un qui, tu sais, on pense à toutes sortes de personnes en prison, mais je pense que naturellement, quand on pense à un criminel, on a tendance à penser au Ted Bundy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, genre, parce que dans notre quotidien sur Netflix, etc., il y a cette espèce d'intérêt, engouement pour qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, c'est quoi le contexte dans lequel ils ont été, il y a cette espèce de curiosité un peu morbide.
Ouais. Et pour être honnête, c'est souvent ces personnalités-là qui reçoivent le plus de lettres aussi.
Oui, parce qu'elles ont la couverture médiatique.
Mais, exact. Ouais.
Aussi, sur les sites de Prison Pen Pals qu'on a vu, la plupart des inmates ne donnaient pas la raison pour laquelle ils étaient en prison. Mmh. Il y en avait qui le mentionnaient un petit peu sur le côté, mais ultimement, je pense pas que ce soit un requirement de donner...
C'est à leur discrétion.
C'est à leur discrétion.
Ou pas cette information. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, c'est en général ceux qui sont coupables des crimes les plus notoires et qui reçoivent genre des centaines de lettres. Ils partagent leurs lettres avec les autres détenus qui, eux, reçoivent pas de lettres. Beaucoup de femmes. J'ai vu un documentaire de Radio-Canada qui parlait d'une femme qui écrit, elle était obsédée par Rocco Magnotta.
Oh my god.
Et non mais genre vraiment hyper obsédée, genre elle avait des photos de lui partout dans son
mais lui-même monde. Est obsédé par lui-même, donc finalement tu sais
ça
quoi,
ça se comprend, ils ont trois chemins. Ça c'est vrai. Et du coup donc elle lui a envoyé plein de lettres et puis Rocco Magnotta apparemment il reçoit comme 200 lettres par semaine.
Ouais, c'est vrai.
Donc il partage son détenu et donc finalement elle s'est retrouvée à correspondre avec un autre détenu qui lui avait une peine de plus légère. Non, mais tu sais, genre, qui avait pas commis un crime si grave, du coup, qui allait sortir relativement prochainement. Et du coup, elle s'est retrouvée en relation épistolaire avec un autre détenu. Et puis, donc, dans le documentaire, elle finit par le rencontrer. Et puis, genre, il sort en liberté conditionnelle. Donc...
Un criminel, un autre criminel.
Non, mais cette approche qu'elle a eue, genre, un peu en mode groupie, finalement, elle l'a ramenée vers quelqu'un avec qui c'était plus rationnel d'entretenir une relation. Et puis
en plus, il est homosexuel, il est quand même
aussi
mais c'est marié, je pense aussi.
Ouais, c'est marié,
pas alors qu'il était en prison.
Ouais. Bah, il le sera toujours.
Ça veut dire que si t'es un criminel qui reçoit beaucoup d'attention et que tu partages tes lettres, la personne avec qui t'as partagé peut répondre en disant oh salut, je suis pas Rocco Magnotta, mais je veux bien qu'on apprenne à se connaître.
C'est ce qui s'est passé dans ce cas.
Ok.
Mais ouais, mais donc tout ça pour dire que il y a quand même évidemment genre un intérêt pour les personnes qui sont incarcérées d'essayer de trouver genre une relation à travers ce genre de site là mais c'est avoir une relation avec quelqu'un qui est en prison, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de challenges qui viennent avec ça. Déjà, en tant que la personne à l'extérieur, tu te retrouves à être toujours on edge parce que tu dois être disponible pour répondre aux appels de la personne qui est dans la prison. Tu peux pas toi-même décider d'appeler quelqu'un en prison. Donc tu dois être tout le temps dans l'attente de quand la personne qui est incarcérée décide de t'appeler, quand est-ce qu'elle a, elle, l'occasion de faire un appel. Par contre, c'est toi qui payes. Donc, il y a un challenge financier qui vient avec ça. Parce que, comme on le voit dans les séries, genre, quand tu reçois un appel de prison, genre, ça te demande, genre, est-ce que tu l'acceptes? Parce que c'est toi qui payes, ça coûte cher. Toujours dans le même documentaire de Radio-Canada, il y avait une femme qui décrivait donc sa relation avec... elle est mariée avec quelqu'un en prison, qu'elle a rencontré pendant qu'il était incarcéré. Et elle racontait que dans les premiers mois de leur relation, ils passaient tout leur temps à correspondre par téléphone, et ça lui coûtait 400-500 $ par mois. Ouf, genre, c'est énorme. C'est pas un forfait téléphonique. Ouais, même pas digne de Fido ou quoi que ce soit, genre.
Est-ce qu'il leur achète des trucs? Est-ce que tu peux donner de l'argent à...
Oui, bien sûr.
Ouais, ta partenaire en prison.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est une crainte de beaucoup de personnes qui sont en relation avec des gens en prison. Ils ont souvent peur de se faire michetonner par, par les personnes en prison parce que ils ont pas de ressources, en fait.
Ouais.
Parce que même si la personne qui est incarcérée veut prendre en charge les frais, c'est très difficile de gagner de l'argent en prison, même si tu travailles. Donc j'ai regardé au Canada, en tant que détenue, tu peux gagner maximum 6,90 $ par jour.
Ouais.
Mais ça, c'est au fédéral ou au provincial? Où ils font pas la distinction?
Donc ça, c'était... J'ai pas l'information. Prison pénitentiaire.
En fait, parce que...
Tu as l'info?
Parce que... Non. Non, mais je pose la question parce que... Tu sais, les prisons fédérales versus provinciales... T'sais, dépendamment le gouvernement en place, t'sais, il y a beaucoup de politiques qui changent par rapport aux revenus, aux soins qui vont être disponibles pour les détenus, etc. Donc,
ça précise pas.
Non, c'est pas de part.
Ça disait système carcéral canadien, donc je sais pas si ça parle d'une prison fédérale ou provinciale. C'est quoi qui détermine dans quel système tu te retrouves? Est-ce que c'est selon
la gravité de ton crime?
Okay. Mais en tout cas, 6,90 $ par jour. Ça reste bien en dessous du salaire minimum.
T'imagines,
c'est difficile de soutenir ta famille ou ton ta partenaire qui souhaite entretenir une relation avec toi pour te soutenir. Genre, c'est difficile de participer en tant que prisonnier.
Mais c'est ça, imagine, t'as comme tu es une femme dont le mari est en prison, t'as ta famille qui a besoin de toi et comme t'as un revenu en moins et tu t'as subvenu encore assez besoin en plus.
Ouais.
C'est de payer les appels que tu reçois.
C'est quand même un challenge. Et puis en plus de ça, il y a quand même toute la stigmatisation sociale qui vient avec le fait d'être en couple avec quelqu'un qui est en prison. Genre, on peut l'imaginer. Ça peut être une grande source de honte et d'anxiété par rapport au fait de partager sa relation. Donc voilà, quand même pas mal de défis. Et dans cette communauté des personnes qui datent des détenus, on retrouve surtout des femmes. Donc ça, je pense qu'il nous faudrait peut-être des plus grandes connaissances en psychologie ou des plus grosses recherches pour expliquer pourquoi les femmes sont plus intéressées à rencontrer des personnes en prison que les hommes à correspondre avec des meurtrières en prison. Ce sera peut-être un autre sujet.
Mais ce serait pas aussi la différence de rencontrer quelqu'un qui est en prison versus être avec quelqu'un qui... atterrit en prison,
Mais effectivement, il y a une différence. Donc, déjà, il faut savoir que c'est très difficile de maintenir une relation quand tu es en prison. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en prison et qui maintiennent leur relation de l'extérieur. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle le Met While Incarcerated, qui décrit que dans 80% des cas, quand l'homme est incarcéré, ça mène au divorce. Et ce chiffre-là est proche de 100% chez les femmes. Donc il y a quasiment 100% des couples où la femme part en prison, où le couple ne survit pas à la détention. Et puis une des explications qui a avancé, c'est le fait que les femmes ont tendance à souvent être plus incarcérées loin de chez elles, et donc ça rend le maintien de la relation encore plus difficile, parce qu'il y a moins de prisons pour femmes.
Ouais.
Et d'ailleurs au Québec, il y a ce problème. Genre à Montréal, je pense la plus grande prison pour femmes, elle a été fermée. Et ils ont amené les femmes dans une prison pour hommes. Genre, ils ont créé une section homme et une section femme, puis c'est largement critiqué par les associations de protection des droits des détenus, puisque il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est les femmes prisonnières ne veulent pas cohabiter avec des hommes.
Et je pense que une des raisons potentielles, mais j'ai pas vraiment, juste je guesse là, mais une des raisons aussi pour lesquelles il y aurait beaucoup plus de femmes qui détraient des hommes qui sont en prison, c'est qu'il y a juste beaucoup plus d'hommes en prison aussi. Je pense qu'il doit y avoir un déséquilibre aussi par rapport à ça.
C'est possible. Moi, j'avais entendu la théorie comme quoi c'était le cas, comme il y avait plus de femmes qui étaient intéressées à détruire des personnes incarcérées, parce que, ou en tout cas, il y avait un parallèle de fait avec le public pour les true crime, qui est essentiellement filmé.
Ouais.
Exact.
Mais honnêtement, c'est drôle de dire ça, parce que, bon, je vais en parler plus tard aussi un petit peu, mais comme nous aussi, on est 100% victimes de ça. Hein,
genre, absolument.
Absolument.
Mais après, ça veut pas dire
qu'on n'est pas rendu, on n'est pas rendu à correspondre avec des personnes incarcérées, mais comme...
Mais on est intrigué par quelque chose, genre...
Limite.
Ça,
je vous
intrigue. Voilà. Donc, je peux pas dire que je comprends l'intérêt de correspondre avec un détenu. Je peux comprendre la curiosité, mais mm-hmm. pas...
Et les perks. En tout cas, tu comprends pourquoi les femmes peuvent être plus représentées dans ce groupe-là que les hommes.
Même si, encore une fois, tous ceux qui sont en prison n'ont pas commis des...
Oui.
Non, bien sûr. Des crimes graves.
Mais donc, pour venir à ton point, Evelyne, tu disais qu'effectivement, il y a ceux qui sont en relation avec une personne qui se retrouve à aller en prison versus ceux qui rencontrent pendant l'incarcération. Et donc, j'ai écouté un audiobook qui s'appelle Love Lockdown, où ça parlait de plein de témoignages de personnes qui sont en relation dans différentes configurations avec une personne qui est détenue. C'est une journaliste qui s'appelle Elizabeth Greenwood, et elle décrit qu'il y a, dans cette communauté, il y a comme une hiérarchie, et que en haut de cette hiérarchie-là, t'avais des gens qui sont genre en couple et qui sont un peu considérés comme des héros parce que ils ont réussi à faire survivre leur relation à travers la prison. Et en bas de l'échelle, t'as toutes les personnes qui ont rencontré leur significant other pendant leur incarcération et qui sont toutes considérées un peu comme des personnes avec une curiosité morbide, tu sais, elles sont mal regardées par les personnes qui sont arrivées en couple. Et dans ce groupe-là, on avait regardé avec Mia au niveau des groupes démographiques, il y avait surtout des femmes. Il y avait aussi des hommes homosexuels et il y avait aussi une surreprésentation des catholiques. Mais je pense que Mia, tu vas nous expliquer pourquoi très potentiellement.
Bien. Très très bien. Alors, ça nous amène à notre prochain sujet. Qui est donc finalement pourquoi est-ce que certaines personnes recherchent des relations avec des détenus. Pour commencer, je vais vous parler de nos cuisines groupies préférées, qui sont donc celles dont on entend parler dans la pop culture. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une grosse trend avant un petit peu des serial killers dans les années comme 70-80, et donc qui était très médiatisée, comme on peut voir Ted Bundy, on peut voir Charles Manson, mais plus récemment il y a aussi d'autres criminels célèbres comme je sais pas si vous vous rappelez du gars du mugshot, puis le mugshot,
celui qui était beau gosse,
celui qui était vraiment beau gosse,
ouais. Ah ouais,
le comment il s'appelle, le handsome, c'est quoi le nom qu'il avait donné,
en fait le gars il était
Handsome Felon, Hot Convict, oui, je pense que c'est ça.
Ouais. Est-ce que c'est le mec qui a marié les Richards de Dubshop?
Exact. Exact. Que lui, il est rentré en prison, son mugshot est devenu viral, et puis il est sorti avec plein de contrats.
Ouais. De mannequinat.
De mannequinat, et puis, comme c'est, après, il faisait partie de la jet set. Donc, comme quoi, ces trends existent encore aujourd'hui. On peut voir comment il s'appelle, Luca Rocco Manuta, comme on en discutait, qui lui, est au top de sa fame. Il a donc rencontré un gars qui est aussi en prison pour meurtre. Donc voilà, c'est...
Gros point commun.
C'est quand même pas mal. Mais c'est ça, les gros classiques. On a aussi Ted Bundy, qui est classiquement good looking, on peut dire. Genre, certaines personnes à l'époque trouvaient comme quoi genre, il était trop beau et trop bien éduqué pour avoir commis des crimes, donc il avait été accusé.
Mais ça, c'était passionnant quand même, pour avoir regardé les documentaires quand ils sont apparus sur Netflix, justement. Ouais. c'était impressionnant comment on écartait la possibilité que lui ce soit un criminel parce que il était beau, il y avait une belle prestance, etc., etc. Mais c'était aussi, je pense, il y avait beaucoup de tueurs en série dans les années 70 aussi.
Oh, ouais, c'était
aux États-Unis, c'était, ouais.
Ouais. Mais il y a des théories vraiment nulles. Genre, tu sais, les gens qui pensent que si t'es trop beau, tu peux pas commettre un crime, ou si t'es, je pense à...
Salzone.
Exact. chanteur national qui a été accusé de crime.
Tu m'as dit, on va chuter dans les stades du Maroc après
avoir juste... On va chuter dans les stades du Maroc. Bon, c'est pas grave, on va viser un autre public. Mais en tout cas, lui, tu vois, c'était...
On peut mettre un petit peu de background.
Il est trop connu. Oui, voilà, donc chanteur marocain accusé de viol, mais qui a été défendu par beaucoup de femmes, mm-hmm. notamment, qui ont side avec l'agresseur parce que il est beau, il est connu, et donc il a pas besoin
ouais.
de violer une fille pour pouvoir avoir des relations avec elle. Comme
c'est un big thing, les gens ils manifestaient dans les rues parce qu'ils s'étaient fait arrêter en France,
les gens insultaient la fille
ouais pour que on le laisse sortir, c'était vraiment un gros
ouais, ça veut dire que si tu es victime d'une personne connue ou belle et que tu te défends, c'est que tu veux de l'attention et de la lumière et que c'est forcément fou.
C'est horrible. C'est une période qui me chagrine. Ouais, qui me chagrine vraiment quand je pense à... Bah, regarde-le aujourd'hui, il se porte très bien et puis il est au top des charts au Maroc, donc finalement, ouais. Comme quoi. Mais tout ça pour dire que Ted Bundy, pendant son trial, il y avait des femmes qui se présentaient habillées comme ses victimes. Pour montrer leur support, en gros.
Mais c'est tellement triste et irrespectueux, inacceptable, à mes yeux, de faire abstraction, puis juste d'ignorer les personnes, les familles qui ont souffert dans ces crimes-là. Puis, quand, je me rappelle, ça n'a pas rapport avec le sujet, mais c'est juste toutes les docu-séries qui sont sorties sur les différents criminels, les familles des victimes, en fait, mm-hmm. sont même pas consultées, puis ça, c'est une grande critique.
Souvent, elles critiquent même ce genre de documentaire. Genre, elles s'expriment pour...
Parce qu'elles ont même pas de
redemande. Signaler leurs désaccords.
C'est une parenthèse encore, mais on avait vu le documentaire sur le Cicero Hotel, vous vous rappelez?
Oh oui,
sur Netflix, qui était vraiment... En gros, ça parlait de... Bon, je sais qu'on l'a vu ensemble, mais pour ceux qui l'ont pas vu, ça parle, en gros, c'est comme un hôtel à Los Angeles où il y a une jeune femme qui s'est faite qui est décédée là-bas, et en gros l'affaire était très médiatisée parce mm-hmm. qu'il y avait une vidéo qui avait leak de l'hôtel où la fille agissait de manière un petit peu erratique et qui avait pas l'air bien, et en gros ce cas-là a été saisi par les enquêteurs d'internet, les internets qui ont donc construit tout un cas sur qu'est-ce qui est arrivé, mais finalement la vérité vraie était qu'elle avait des problèmes, je pense qu'elle était comme bipolaire, un truc comme ça,
elle
avait des problèmes.
Elle avait pas pris ses traitements.
Exactement. Et c'est une fin qui est tout aussi dramatique dans les faits
ouais.
que s'il y avait eu un serial killer ou si, on sait pas ce qui aurait pu se passer, mais comme les enquêteurs d'internet ne se suffisaient pas de cette explication-là et cherchaient. c'est le mot que tu cherchais, merci. Et donc, dans le documentaire, ce que j'ai à reprocher à Netflix, pour ce documentaire, c'est qu'ils ont juste interviewé des web sleuths donc qui avaient comme des théories sans queue ni tête,
mm-hmm.
mais comme ils n'avaient pas l'accord de la famille, ils ont interviewé personne qui connaissait vraiment la fille. Et donc je trouve ça vraiment triste de donner comme une plateforme à ces gens-là qui vraiment ont aidé personne, et ils ont fait que harceler, qu'ils ont fait que remuer la mémoire mm-hmm. de cet événement terrible au lieu de juste accepter comme quoi ben c'est tout aussi dramatique d'avoir un problème.
Il y avait une autre conséquence triste à ça, c'est qu'ils ont faussement accusé quelqu'un qui n'avait rien à voir avec...
C'est vrai.
Comme quoi, si t'as une fascination pour le true crime, il vaut mieux être une prison groupie qu'un web sleuth.
C'est vrai.
C'est vrai.
Hey.
Pour la société,
j'aime bien cette
moralité. Ça, c'est une belle...
transition back to our subject.
Ouais, merci. Alors, pour revenir sur le sujet de Ted Bundy, il s'est marié, basically, pendant son trial... Et avec une de ses témoins. Et en gros, donc il a continué sa relation avec cette femme, ils ont eu un enfant. Mais c'est pas vraiment clair comment ils ont conçu cet enfant, parce que je pense qu'il avait pas le droit aux visites conjugales. Donc, en gros, les visites conjugales, il y a certains... Bah, la plupart des pays autorisent les inmates de pouvoir passer du temps privilégié avec leur conjoint, conjointe. Et donc, c'est cool pour eux parce que ça leur donne l'occasion de construire des liens, mais c'est sûr que c'est une manière de s'assurer comme quoi les inmates restent...
In line.
Restent in line, exactement, parce que c'est un privilège qui peut être retiré. Donc, j'imagine que, en tout cas, I guess que Ted Bundy n'avait pas forcément genre ce privilège-là. Charles Manson aussi, c'est comme marié il y a quelques années, genre en 2014, à une femme de 26 ans, et lui non plus n'avait pas le droit de visite conjugale, et puis ça n'a pas duré, son histoire. Et donc, c'est bon de noter que, par exemple, Richard Ramirez aussi s'est marié en prison, mais sa femme à lui et celle de Ted Bundy ont fini par couper les liens avec eux lorsque leur culpabilité s'est avérée irréfutable.
Mmh.
Donc, j'imagine que là-dedans, il y avait l'espoir comme quoi c'était un gros malentendu, comme quoi en fait c'était des bonnes personnes. En tout cas, dans ces deux cas-là, basically, genre, ils étaient nowhere to be seen une fois qu'il y a des preuves d'ADN ou bien ils ont fini par avouer. Donc, c'est pas exactement la même situation que un cas qui est avéré et tu te dis, ah ben il a changé, ah ben c'est différent pour moi, etc. Donc, il y a un nom pour définir qu'est-ce que c'est quand tu es attiré par des personnes qui ont commis des crimes, il s'appelle l'hybristophilie. Donc la définition, c'est en gros une paraphilie dans laquelle un individu est sexuellement attiré par d'autres ayant commis un crime. Donc dans l'article que j'ai vu, ça disait comme quoi l'hybristophilie fut évoquée comme explication possible du comportement de Carla Homolka vis-à-vis du tueur en série Paul Bernardo, mais je sais pas à quel point c'est vrai, parce que j'ai l'impression que Carla Homolka était tout aussi impliquée dans les meurtres.
Ouais, elle était complice.
Elle était complice pendant les premiers crimes, donc je sais pas à quel point. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même une différence entre ce qu'ils appellent l'hybristophilie passive versus l'hybristophilie active. Et la passive serait la situation dans laquelle tu es attiré par des criminels, mais toi-même, tu connais pas de crimes, exactement.
Ça me fait penser à la fille dans The Serpent.
Ah, ouais, c'est vrai.
Moi, ça plaît déjà.
La québécoise.
Marie-André,
genre.
Marie-André. Ouais, qui venait de Lévis.
C'est ça.
Donc, cette femme qui a été mariée avec un monsieur qui a commis plusieurs meurtres, qui n'a jamais participé au meurtre, mais qui a juste fermé les yeux. Donc j'imagine qu'elle est hybristophile facile.
Ouais. Elle a pas participé. Elle l'aidait pas.
Elle l'aidait à les attirer vers lui.
Mais ouais, quand même. C'est quand même un petit peu actif. Avec Charles Sobhrage.
Ah ouais.
Oh my god.
Ouais. Qui a été libéré en plus d'année.
Oui. Pour des problèmes de santé.
On est trop au courant. Ok.
Non, mais ils ont fait un article il y a pas longtemps.
Ouais, on l'avait vu. Oui, bah oui. On tombe tous sur ces informations-là. C'est marrant. Donc, en gros, c'est hybristophilique passif vont excuser le comportement criminel de leur partenaire en pensant, I guess, en partie, qu'ils peuvent les sauver ou les changer. Mm-hmm. Donc, il y aurait aussi le sentiment comme quoi ces personnes-là ne pourraient jamais les blesser eux-mêmes. Et donc, en gros, ils auraient tendance à se mettre en position d'être séduits, manipulés et mentis par les gens qui tombe amoureux. De l'autre côté, il y aurait l'hybristophilie agressive, ou quelqu'un qui serait attiré par des comportements criminels va finir par s'engager même dans d'autres comportements criminels. Donc j'imagine un petit peu comme Bonnie and Clyde, ou bien aussi dans une référence de culture populaire, ce serait comme le Joker et Harley Quinn, où c'est vraiment elle qui le suit un petit peu dans ses... dans ces crimes, et je pense que c'est un petit peu romantisé aussi par la culture populaire, c'est comme nous contre le monde.
Tu aimes Bonnie and Clyde?
C'est ça, ouais, c'est ça. Mais je m'en rappelle pas exactement de l'histoire de Bonnie and Clyde.
Est-ce que tous les deux... idée de c'est quoi l'histoire de Bonnie and
Clyde. C'est ça, est-ce que tous les deux, est-ce que c'est une situation de Carla Homolka où ils commencent à faire, genre tous les deux ils font des trucs chelous, ou bien c'est vraiment l'un qui suit l'autre, tu vois?
Je sais pas. Mais Carla Homolka, je pense qu'elle suivait un peu quand même Paul Bernardo.
Probablement.
Parce qu'elle est hybristophile active.
En tout cas, dans notre imaginaire, genre Bonnie and Clyde, c'est genre des partners in crime.
Ouais, c'est ça.
Positivement. Alors que c'est des vrais criminels dans la vraie vie. Je pense
qu'ils ont tué des gens.
Je sais pas. Je pense pas que c'est... Ah ouais. C'est tellement...
Attends, je vais pas dire de bêtises. Je vais chercher tout de suite.
Vas-y.
Non, mais ça dit, c'est ça. C'est les assassins, vraiment, Bonnie Parker et Clyde, parlent pour l'un pour l'autre un amour fou.
C'est horrible, ouais. Parce que on sait jamais, c'est la homoïka de mon pote, genre. Tu vois, c'est horrible. En vrai, c'est la Carla de mon... En tout cas.
Là, franchement,
c'est... À chacune fois, les Carla.
Non, mais c'est vrai que j'avais pas du tout cette image dans ma tête. Genre, j'imaginais pas des tueurs de sang-froid, tu vois. C'est vrai.
Ouais, c'est un peu bizarre de romanticize ce genre de...
Enfin, c'est une chanson de Beyoncé qui s'appelle Bonnie and Clyde et tout.
Voilà. C'est vrai.
Voilà. Et donc après, on peut s'intéresser à pourquoi, en gros, pourquoi certaines personnes, donc, ont ce genre d'attirance.
Mm-hmm.
Et je pense que une partie des raisons, c'est que, ben, déjà, tu as 100% de l'attention de la personne derrière les barreaux.
Ouais.
Tu es un de ses seuls liens avec le monde extérieur et donc, dans une situation, I guess, tu t'es déjà fait tromper, ça a déjà eu... Tu es très secure dans cette relation parce que l'autre personne n'attend toi. Exact. Et tu choisis aussi quand tu vas aller la voir.
Mm-hmm.
Et tu peux cesser d'aller la voir le jour où ça ne te tente plus. Donc...
Un sentiment de contrôle.
Il y a un gros sentiment de contrôle. Et c'est beaucoup aussi des gens qui ont comme des backgrounds de violence parce que ben, t'es sûr comme quoi ils peuvent littéralement pas te toucher si tu le veux pas. Donc tu as vraiment le contrôle de la relation dans ces situations-là. Il y a aussi donc un savior complexe dans le sens où tu viens à l'aide à une personne en détresse et puis tu la sauves et t'as l'impression que ben tu l'aides à devenir meilleure.
Est-ce que c'est pour ça que le catholicisme est bien représenté?
Mais je pense que oui.
Ouais, mais tu sais quoi, il y avait beaucoup de jargon catholique dans les descriptions des gens qu'on regardait sur Prison Inmate qui disait comme quoi I have been saved by God, genre
ouais.
Tu sais, il y a quand même cet aspect là un petit peu de rédemption.
Ouais, la rédemption, je pense que ça doit être attirant pour une certaine tranche de la population.
C'est mais sûr, sans vouloir dire des bêtises, je pense aussi que quand tu t'associes à une religion, t'as certains privilèges que si t'en
tu serais pas. Tu veux dire quand t'es
en prison,
quel genre de privilèges?
Je pense
par rapport à la nourriture, au moment de prière, des espaces pour exercer ta religion.
Donc, mais ne serait-ce que aussi, genre, appartenir à un groupe en prison et aussi, avoir la sécurité qui vient.
C'est clair. Mais aussi, c'est ça, en gros, ça correspond aussi, ce genre de relation, c'est un petit peu comme la romance avec un grand R, c'est Roméo et Juliette, tout le monde est contre vous, tout est dramatique. Donc c'est un petit peu, ça correspond un petit peu à cette vision de l'amour que certaines personnes ont, comme quoi ça va être difficile. Et donc effectivement c'est difficile parce que l'autre personne est derrière le barreau. Et aussi il n'y a pas de banalité parce que ben c'est une relation spéciale, c'est pas comme celle que les gens ont eu avec toutes les autres personnes. Et donc il y a aussi, ben il faut avoir un petit peu de recul sur nous-mêmes aussi parce que comme on disait tout à l'heure, on consomme une assez grande quantité de matériel de true crime. Et est-ce que ce serait pas une certaine fascination morbide qui viendrait du même endroit?
Est-ce qu'on est nous-mêmes hybristophiles?
Écoute,
c'est ça. Hybristophiles passifs.
Parce que finalement, on acte pas en net, mais comme on va quand même activement chercher à regarder ça. Moi, des fois, genre je sais que ça m'intéresse, mais que rapidement, je suis trop cryptate. Donc, genre, j'essaie de diminuer des fois mon... parce que sinon, ça me met trop mal à l'aise.
Ouais.
Mais cette fascination-là est encouragée comme... Tu sais, des films comme... il s'appelait Shocking Evil et quelque chose d'autre. Ils ont le titre qu'ils ont fait sur Ted Bundy. Connais-tu ça?
Avec Zac Efron.
Avec Zac Efron. Genre, tu poses Zac Efron comme personnage principal.
Tu sais que tu vas glamourise
le
personnage.
Exactement.
Et il y avait eu les mêmes critiques avec le film là sur le cannibale. Et la série.
Jeffrey Dahmer, je suis quand même moins d'accord. Parce que Jeffrey Dahmer, c'est vraiment gore.
Mais j'avais vu les mêmes critiques en disant que genre le casting était un peu trop... genre ils sont allés chercher quand même un acteur qui était très populaire auprès genre des jeunes femmes. Et genre que c'était quand même un... Je sais pas si c'est un sex symbole, mais genre un acteur glamour, quoi.
Oui, mais... Sans prendre la défense de la série sur Jeffrey Dahmer, il a, par exemple, Ted Bundy a eu une histoire d'amour avec Lily Collins, genre avec Carol Ann Boone, mm-hmm. qui est jouée par Lily Collins, qui est aussi une très belle femme, et ça donne un petit peu l'impression de Us Against the World, alors que Jeffrey Dahmer, c'est vraiment comme juste un malade mental dans la série. Et moi qui regarde beaucoup ce genre de série, j'ai pas pu continuer tellement.
Mais lui aussi, il a des. Il a, ou l'avait, je sais pas s'il est encore vivant, mais genre lui aussi, là, il avait plein d'admiration.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense pas que la série Netflix encourage ça.
Non, dans je pense que puis encore là, sans défendre la série nécessairement, mais le l'angle sous lequel ils avaient essayé vraiment d'aborder la chose, puis c'est comment ils ont défendu de faire cette production-là, c'était que c'est quel était le contexte sociopolitique qui avait facilité les meurtres oui. de Jeffrey Dahmer. C'est mm-hmm. ça qui rendait ses crimes oui. encore plus haineux parce qu'il avait ciblé un voisinage, une communauté mm-hmm. plus vulnérable, plus fragile, où est-ce que
ces crimes pouvaient passer inaperçus.
Et il y a plein de gens qui ont appelé la police pour signaler des odeurs bizarres, des cris, et personne ne les a jamais pris au sérieux.
Donc tu veux dire que la série, elle a le mérite de mettre en lumière des fautes dans la façon
c'était,
dont
c'était
le...
C'était l'angle sur lequel eux ont défendu, se sont défendus par rapport aux critiques qui leur avaient été adressées justement. Puis l'acteur qui avait été choisi, c'est aussi un acteur qui fait American Horror Story. Ouais. Il était déjà un peu dans ses types, il avait déjà travaillé beaucoup avec Ryan Murphy qui avait réalisé la série aussi.
Mm-hmm.
Ça donnait un peu...
une justification. Moi, pour le coup, j'ai trouvé bon, genre, même si, encore une fois, j'ai regardé comme deux épisodes, et après, j'étais comme out, parce que c'était trop dégoûtant. Mais je trouvais que, genre, il était vraiment une glace et le sang,
les vampires. Dans le cas de Ted Bundy, est-ce que, genre, il pourrait pas aussi se justifier en disant que, ben, le choix de Zac Efron, il était approprié, vu que Ted Bundy était reconnu pour avoir une beauté assez, genre, classique. Et qu'il était reconnu pour provoquer genre beaucoup d'attirance dans le public féminin. Donc est-ce que c'est pas logique de prendre un acteur qui est beau et qui est genre populaire auprès des filles?
Je pense que c'est aussi le focus sur l'histoire d'amour.
Ouais.
Mmh.
Qui c'était un film.
C'est vrai. Et c'est pas que ça focus sur la relation.
Ça focus sur la relation, tu vois. Et donc ça rajoute un petit peu un aspect romantique et donc aussi la série You. Avec, comment il s'appelle? Penn Badgley.
Ouais, je connais pas ça.
Penn Badgley.
Que, ouais. Genre, a été critiqué aussi parce que, ben, il y avait un public qui le trouvait très attirant et puis, bon, après, je trouve pas non plus que la critique soit valide parce que, objectivement, c'est un creep dans la série.
Oui.
Mais c'est sûr que ça peut romantiser un petit peu, genre, les relations un petit peu toxiques avec les creeps.
Effectivement.
Mais ce que j'ai aimé de l'acteur, je pense que là, dans ces séries-là, par exemple...
Dans You?
Par exemple, l'acteur, mais il a verbalisé, il était vocal là-dessus aussi, que vous devriez pas trouver ce type de personnage attirant. Il a vraiment pris une position par rapport au rôle qu'il joue, puis je pense que...
Il a remis les gens à la place.
Exactement.
Ouais, mais avoir à faire ça, c'est quand même assez, assez impressionnant.
Ouais.
Au-delà du physique des criminels, je pense que quand t'es une groupie de ce genre de profil, t'as pas le choix de soit avoir un appel par jour, soit leur écrire des lettres.
Ouais.
Et écrire des lettres, c'est super intime.
Mm-hmm.
Et je pense que ça peut développer des relations plus des connexions profondes.
Ouais, c'est vrai.
Et aussi, on a aussi, je sais pas vous, mais j'ai déjà comme parlé à des personnes par texto sans trop les voir, ou même sans les voir, genre avant de les rencontrer. Et on a tendance à idéaliser un petit peu leur image.
C'est vrai. Tellement. Mais c'est comme une relation à distance, en fait.
Exact.
Genre, une relation à distance, t'as le temps de construire l'image de la personne.
Tu files une blesse dans ta tête.
Exactement. Et puis, en plus de ça, tu peux ignorer ce qui te dérange de la personne la plupart du temps parce que tu ne la vois pas.
Ouais.
Et donc, tu dis, ah ben, je vais dire...
Et tu peux arrêter de lui parler quand on en a.
Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect... qu'on peut idéaliser en fait la personne qu'on ne voit pas régulièrement et puis ignorer juste ce qui nous dérange et puis garder cette image parfaite.
Et je pense que quand tu prends un papier, un crayon, genre, tu peux pas écrire que genre you up.
Yo, what's up.
tu dois te livrer un petit peu plus, je pense. Vrai.
Bah c'est ce que disaient beaucoup de gens dans le livre là, Love Lockdown, genre les les femmes qui témoignaient, elles racontaient le fait que c'était les relations les plus profondes qu'elles avaient eues, parce que avant d'arriver à un contact physique, avant en fait de se déplacer, se rendre à la prison, rencontrer la personne, tu lui écrivais super souvent, parce qu'effectivement les appels ça coûte l'argent, donc souvent les lettres c'est plus facile comme moyen de communication. Oui, dans nos relations modernes, quand est-ce que tu as autant de conversations, des vingtaines de pages de lettres que tu reçois avant de rencontrer même la personne ? C'est vrai que ça change la dynamique.
Et en plus, ça fait romantique old school.
En plus.
Ouais. Roméo et Juliette, encore une fois.
Qui doit plaire à un public féminin,
c'est ouais, sûr.
Je pense. Plus que, genre, c'est les sûr. Gars, qu'est-ce qu'ils ont à dire ?
Oui, ceux qui sont dans la prison, ils ont rien d'autre à faire que d'écrire les lettres. Mais
je
c'est clair.
Je vois pas un gars à l'extérieur
vouloir prendre le temps. Ouais. Ouais.
C'est vrai. C'est comme les gens sur les arbres qui veulent tout de suite te rencontrer. Mm-hmm. C'est vrai. Tu vois, si ça avait été, s'ils avaient été en dehors de la prison, ils auraient tout de suite voulu rencontrer. En tout cas, peut-être ça explique.
Peut-être les punks. Quelqu'un en prison. Tu peux pas aller voir ailleurs, il a pas le choix de te parler.
Exactement. Non, mais il faut aller voir ailleurs en prison.
Oui, ouais, ça c'est un autre. Donc, ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que les personnes incarcérées, donc hommes et femmes, qui maintiennent des liens forts, ont beaucoup plus de chances de cope en prison et ont moins de problèmes disciplinaires. Donc, on peut imaginer aussi que la peur qu'on leur enlève les droits, par exemple la vie conjugale, sert à les garder in line. Et donc, ils ont moins de chances de récidiver après être sortis de prison. Ça nous amène à notre dernière section.
Oui, donc on voulait juste amener une petite ouverture. Donc, vu qu'on, comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup plus de femmes qui courtisent les criminels que d'hommes qui vont à la recherche de partenaires meurtrières. Et il nous faudrait peut-être un peu plus de compréhension du sujet pour expliquer pourquoi. Par contre, on trouve des hypothèses pour expliquer pourquoi les femmes sont moins elles-mêmes à la recherche, les femmes qui sont en prison sont moins à la recherche de relations amoureuses pendant leur incarcération. Et donc il y avait des études qui montraient que les femmes ont plus tendance à reproduire un modèle familial et nouer des liens entre prisonnières. Et donc retrouver du support social à l'intérieur de la prison. Et donc on s'est demandé, est-ce que dans les prisons, dans les modèles carcérales qui sont plus humains, est-ce qu'on voyait des meilleurs impacts sur les relations humaines à l'intérieur des prisons, et est-ce que ça avait un impact sur la réinsertion, les chances de réinsertion par la suite. Et donc quand on cherche sur les modèles de prisons plus progressistes, on trouve souvent donc les prisons norvégiennes, qui sont une en particulier, qui est dans la région de Oslo, qui est la deuxième plus grande en Norvège, donc c'est une grande prison, et qui a été construite avec une mentalité différente, qui est plus axée sur comment tu prépares les détenus à leur réinsertion que sur la punition. Et tu retrouves ça dans la relation que les prisonniers ont avec les gardes de prison. Donc le personnel utilise un concept de sécurité qui s'appelle la sécurité dynamique. Et donc les gardes se mélangent aux détenus et ils sont tout le temps parmi eux. Ils sont jumelés à un ou plusieurs détenus. Et donc ça crée des relations amicales en fait entre le personnel carcéral et les prisonniers. Et puis eux-mêmes, les prisonniers, ils sont groupés en groupes de 5 à 6 qui vivent comme en petits groupes. Et voilà, donc ils nouent des relations entre eux et puis ça les prépare mieux à la vie qu'ils vont retrouver à l'extérieur. Et donc dans ces prisons-là, les témoignages disaient que le nombre d'incidents violents, c'était 1 à 2 occurrences par an, donc ce qui est genre vraiment hyper minime. Et c'est aussi en Norvège qu'il y a le plus haut taux de réinsertion en Europe. Donc, parce que là, ça fait plusieurs années que ces prisons-là ont montré leurs résultats. Donc c'est intéressant de voir que, comme quoi...
Le meilleur bout du tunnel.
Oui, et que c'est pas au plus une groupie de faire le travail. Ouais. Réinsertion sociale, finalement.
Ça me fait penser... Bah, en fait, c'est l'inverse d'un test psychologique qui avait été fait, qui est populaire, enfin, qui est connu, ouais. J'ai oublié le nom. Mais où est-ce qu'on a mis des personnes lambda, genre monsieur, madame, tout le monde, qu'on a divisé en groupes pour l'expérience. entre prisonniers et gardes.
Ah, ça c'est le Stanford Prison
Experiment. Voilà. Exact, exact. Puis il y avait genre très vite eu beaucoup de débordements, puis genre des relations, enfin, ouais, beaucoup d'humiliation, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Alors que c'était même pas des vrais prisonniers ni des vrais gardes.
Mais on leur avait donné les règles de ouais, vie dans une prison basée sur une prison aux États-Unis normale, quoi.
Ouais.
Mais on peut renvoyer à un de nos podcasts préférés, You Wrong About.
Ouais.
Qui débunk une partie des conclusions du Stanford Prison Experiment. Parce que finalement, ça, c'est super intéressant comme expérience, mais ça n'a jamais été vraiment peer-reviewed, et puis il y a pas mal de biais qui sont built-in dans l'expérience de part psy qui a été sélectionnée, ouais, pour...
Ça a été interrompu aussi.
Ça a été interrompu, en plus ils étaient payés, je pense, donc ça les encourageait, ah, à rester plus longtemps. Donc en tout cas, on les salue. Les plus d'informations là-dessus, allez voir, allez écouter You're Wrong About.
Donc c'était un petit peu ça notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, les filles?
Ben, moi j'avais écouté un podcast. J'ai cherché des podcasts sur le prison dating.
Ouais. Puis
j'ai écouté Nicole Byer qui...
Ah oui, je l'ai écouté chez la aussi.
Je la salue. Je la salue, mais je trouve que les conversations s'égarent un petit peu des fois. Mais...
Comme nous.
Franchement.
En tout cas,
il y en avait un que je connais pas, de Fidzi et Wipa, qui ont un qui s'appelle deux personnes, deux hommes en fait, et j'ai oublié le titre de cet épisode en particulier, mais ils avaient pris le témoignage d'une femme qui a daté quelqu'un en prison, qui datait à ce moment-là quelqu'un en prison, quelqu'un qui a quand même été en prison pendant 20 ans. Donc, qui ne sait plus trop comment a évolué le monde extérieur. Puis elle disait que elle est allée vers cette personne parce que elle sentait que quelqu'un en prison allait pas la juger sur ses propres défauts. Ouais. Et elle avait des problèmes d'alcool. Et donc, elle, ça l'a aidé à se sortir de son alcoolisme. Puis lui, ça l'a aidé à genre, avoir un contact avec l'extérieur. Puis aussi à mener une relation saine avec quelqu'un de l'extérieur. Mmh. Donc, ils se sont entre-sauvés, genre.
Ah, c'est cute comme
histoire.
Mais en même temps, je trouve ça triste, genre, que tu ailles voir quelqu'un qui est dans une situation pire que la tienne pour,
un peu, ouais,
pour t'aider toi-même.
Bon, ça a bien work out pour elle, mais c'est vrai que chercher quelqu'un qui est encore plus dans le mal que toi pour te sortir toi de ton mal-être.
Mais c'est aussi ton réseau social, ton centre des supports.
Mais un autre truc intéressant dans ce podcast, il est très court, mais c'est intéressant, les questions qu'ils lui ont posées et tout. Et à la toute fin, ils se sont dit, ça a l'air tellement difficile d'entretenir une relation avec quelqu'un en prison que j'ai envie d'être un meilleur partenaire parce que j'ai tout pour pouvoir être un bon copain.
Ouais. Ouais.
Et genre, la personne est accessible, je peux l'appeler n'importe quand, je peux faire des trucs pour elle, genre.
Comme quoi, faut pas prendre pour acquis notre, genre, la facilité que c'est de genre, dater sur, ouais, en liberté.
Non, c'est ça, genre, c'est
prochaine facile. Prochaine épisode, dating en liberté.
C'est tellement facile de dater en liberté, pourquoi est-ce que la dating life est aussi éprouvante pour certaines personnes, tu vois, alors que quelqu'un qui date quelqu'un en prison est obligé de faire beaucoup plus d'efforts, de soutenir financièrement, de genre, ouais, aider plus et tout. Et ils vivent avec énormément de contraintes. Et nous, avec zéro contrainte, on est naze. Ouais, c'était ça un peu leur conclusion.
Non, c'est
très belle conclusion.
Mais dans le documentaire de Radio-Canada, il est paru il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Amour criminel. Il est paru genre en 2023, là, début de l'année. Et il y avait un monsieur qui a fait de la prison, lui, parce qu'il a été accusé d'avoir commandité le meurtre de son partenaire d'affaires, donc c'est not for the small, je sais pas comment, the faint of heart. Et donc lui, après avoir purgé sa peine, donc maintenant il est en liberté, donc dans le documentaire, ils vont l'interviewer, il est dans un café, tu sais, comme nous quand on va travailler dans les questions, un petit café avec un laptop, et il dit genre, c'est plus difficile de dater maintenant que je suis à l'extérieur, parce que je reçois pas genre plein de lettres de l'admiratrice. Mais c'était cute parce qu'il disait que il louait la générosité des personnes qui écrivent aux prisonniers en disant que genre ces gens-là, le travail qu'ils font, genre c'est vraiment du travail social en fait, genre le soutien qu'ils apportent psychologique aux personnes qui sont en prison, il a beaucoup de valeur. Et lui, il expliquait que il devait genre sa réinsertion à lui, puis le fait d'avoir réussi à purger sa peine sans avoir plein de rallonges de peine, il le devait au contact qu'il avait entretenu par là. Donc il était super grateful.
C'est beau.
C'était cute.
Ouais. C'est intéressant parce que genre au premier abord, quand tu penses à quelqu'un qui veut dater quelqu'un en prison, on a tendance à plus juger ce genre de personne et pas à penser à qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'humanité.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai.
Donc franchement, un coup d'os soudain. Donc on conclut chaque épisode en souhaitant bonne chance aux personnes qui datent d'autres personnes.
On verra. Alors bonne chance.
Alors bonne chance.
Bonne chance les amis.
Je savais pas si genre à la fin de l'épisode on allait dire bonne chance ou